La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Après la Suède et la Finlande, le Danemark est depuis hier soir le troisième pays d'Europe du Nord à élire une majorité de gauche à son Parlement.
Oui, à voir les résultats encore provisoires des législatives d'hier. Elle semble sans appel, cette victoire du bloc rouge. C'est la DR, la radio publique danoise, qui tire pour nous les premières conclusions. Les partis alliés aux sociaux-démocrates obtiennent la majorité absolue au Parlement. Leur leader, Mette Frederiksen, sera de toute évidence la prochaine première ministre. Et l'extrême droite, le parti du peuple danois, qui était au gouvernement aux côtés des libéraux, a lui vu son score passer de 21% il y a 4 ans à seulement 9% aujourd'hui. La victoire de la gauche est donc mathématiquement évidente, confirme le quotidien Politiken, mais la réalité politique est plus complexe. Les sociaux-démocrates ont gagné, certes, mais sur la base d'une fiction, d'un mensonge politique, écrit l'analyste Christian Madsen. Le discours qui leur a permis de détourner l'électorat populaire de la droite populiste n'a en fait plus grand-chose à voir avec la social-démocratie. Car Mette Frederiksen nous dit aussi la BBC, a pendant cette campagne opéré un véritable aggiornamiento dans les positions de son parti, en particulier sur l'immigration. Elle a en fait dit sa volonté de maintenir les lois anti-immigration votées par le précédent gouvernement, donc cette ligne dure qui avait été poussée par le parti du peuple danois. Ce dernier est donc battu dans les urnes, mais d'aucuns dans la presse danoise expliquent qu'il a en fait gagné sur le long terme en faisant accepter ses idées xénophobes jusque dans les rangs de la gauche de gouvernement. Et pour doucher encore un peu plus l'enthousiasme de ceux qui voudraient voir dans les résultats de l'élection danoise un modèle pour la gauche européenne, eh bien, il faut lire le Time Magazine. On y comprend que dans le détail des résultats, le parti social-démocrate qui revendique la victoire n'a pas progressé par rapport à son score d'il y a 4 ans. Ce n'est pas lui qui a tiré le plus grand bénéfice du mauvais score de l'extrême droite, mais bien les radicaux de centre-gauche et les écologistes. Sauf que, toujours selon Time Magazine, Mette Frederiksen a déclaré dès hier soir qu'elle ne compte pas former un gouvernement de coalition pour intégrer toutes ses composantes d'une grande majorité rouge-verte. Elle préfère gouverner avec sa minorité social-démocrate et aller chercher le soutien des partis à sa gauche sur certains textes de loi et à sa droite sur d'autres. À Copenhague, tout de même, le grand quotidien Berlingske met en garde. Oui, le Danemark, par l'élection d'hier, a repeint son parlement en rouge et chassé la vieille coalition bourgeoise droite-extrême-droite. Mais dans ce pays pétri de compromis politiques, tout finit toujours au centre et les négociations pour la formation du gouvernement Frederiksen pourraient s'avérer difficiles.
Les commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, Camille, se poursuivent dans le Calvados ce jeudi, mais il y a deux chefs d'État qui font bande à part.
Et un en particulier dont le pays fait pourtant partie du camp de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, mais qui n'est pas en Normandie aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Il est resté en Russie, il avait en fait beaucoup mieux à faire puisqu'il reçoit en grande pompe son meilleur ami du moment, à en croire la Gazeta. Et oui, le président chinois Xi Jinping a entamé hier une visite d'État d'une durée anormalement longue, 3 jours, en Russie. La Chine, c'est donc l'ami le plus intime de la Russie. Xi Jinping l'a maintes fois répété hier entre une visite au zoo de Moscou pour y voir les deux pandas prêtés par Pékin et un spectacle au théâtre du Bolchoï. Rien n'est donc trop beau pour mettre en scène cette belle complicité diplomatique. Alors c'est vrai, nous dit aussi la Gazeta, les deux pays ont beaucoup de centres d'intérêt en commun, la Corée du Nord, le Venezuela, la Syrie, l'Iran, en fait, autant le dire clairement, avec le Washington Post, tous ces points communs qui président au rapprochement prudent entre les deux grandes puissances asiatiques tournent en fait autour d'un seul, les tensions qu'ils rencontrent dans leurs relations avec les États-Unis. Russie et Chine serrent les rangs, abondent depuis Hong Kong le South China Morning Post, quand le très pro-régime Beijing offert Informer en arrive à la même conclusion. Les sanctions économiques imposées par les Américains aux Russes et la guerre commerciale qu'ils mènent aux Chinois font que les deux voisins se retrouvent littéralement poussés dans les bras l'un de l'autre par un entremetteur nommé Donald Trump. Ce qui se joue ces jours-ci entre Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est selon le South China Morning Post la possibilité de voir la relation diplomatique sino-russe surclassée à quelque chose qui ressemblerait vraiment à une alliance bilatérale. Ce n'est pas seulement du jargon diplomatique, cela voudrait dire que Pékin et Moscou lient plus profondément, plus concrètement encore leurs intérêts économiques et leur destinée politique. On n'a jamais été aussi près de cette nouvelle ère dans les relations internationales, confirme Andrei Kolesnikov dans Kommersant. Le célèbre journaliste russe nous rappelle que depuis leur arrivée au pouvoir, Poutine comme Xi Jinping se sent investi d'une mission, celle de détruire le monde unipolaire dominé par les Américains pour en bâtir un nouveau, un monde tout aussi unipolaire certes, mais dont ils seront le pôle.
Et puis direction direction enfin le Mexique, où la perspective de voir des écoliers porter des jupes suscite la polémique.
Et franchement, où va le monde? On se le demande, Guillaume. Des garçons en jupe, eh oui, pourquoi pas, en tout cas du moment qu'on leur laisse le choix. C'est la décision qu'a prise la nouvelle maire de Mexico, la socialiste Claudia Sheinbaum. Elle veut en finir avec l'uniforme obligatoire dans les écoles, jupe pour les filles, pantalon pour les garçons. C'est donc ça, sa mesure phare pour aller vers l'égalité réelle entre femmes et hommes. Et ça crée, il faut bien le dire, depuis le début de la semaine, d'interminables débats, à en croire le quotidien El Universal. L'idée est simple, pourtant, explique la mère, chacun doit être libre de s'habiller et de se comporter comme il se sent bien. Il faut dépasser les assignations de genre. Mais si l'on lit la manière dont c'est présenté dans la presse de droite mexicaine, ça donne « la mère de Mexico veut mettre des jupes aux garçons » et non pas « la mère de Mexico veut donner la possibilité aux filles de porter des pantalons ». Tout est dans la manière de présenter les choses. Mais bon, depuis lundi, le débat évolue tout de même, au-delà des premiers cris d'orfraie des associations de parents d'élèves liées à l'église catholique qui expliquaient dans la Vanguardia mexicaine qu'on volait aux parents leur liberté d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, sur le site d'info Al Momento, on préfère s'amuser du sujet et publier cet article sur ces six pays où les hommes n'ont pas peur de porter des jupes. Vous l'aurez deviné, Guillaume, ça va de l'Écosse forcément à l'Irlande, à la Grèce aussi, à l'Indonésie, en passant par la Rome antique. C'est volontairement léger comme traitement de l'info, mais ça prouve au moins que l'idée fait son chemin dans l'opinion publique mexicaine.
Merci beaucoup Camille Magnard, il est 7h42 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.